des livres plein les oreilles. Bonjour mes amis, comment allez-vous, amis lecteurs, que je retrouve avec grand plaisir à chaque semaine, le jeudi à midi sur les ondes de Canal M et en reprise bien évidemment également. C'est l'émission Des livres pleins les oreilles qui commence pour vous. Il sera question de beaucoup de bouquins. Alors munissez-vous de papier pour écrire ou mettez-vous peut-être sur le clavier de votre ordinateur si vous en possédez un, parce qu'il va y en avoir du livre. Aujourd'hui à l'émission, je reçois Gérald Cousineau qui nous parle d'une jeune fille au piano, de Louise Lacourcière, et je reçois Martine Delvaux qui a signé le livre Blanc dehors. J'ai bien hâte de m'entretenir avec cette femme au sujet de ce bouquin qui, je dois vous l'avouer, m'a énormément touché. Et puis, ben, ce sera peut-être pas forcément une habitude, mais aujourd'hui, on va avoir un petit peu plus de temps qu'à l'accoutumée en seconde partie. Moralité, l'extrait du livre, ce sera un extrait du livre de Madame Delvaux, eh bien, il durera un petit peu plus que les 3 minutes que j'accorde généralement à mes extraits. Vous aurez le droit à, oh waouh, 11 minutes de Blanc dehors. Mais tout de suite, on s'en va rejoindre Gérald Cousineau. Bonjour, bonjour, comment allez-vous?
Mais comme je disais au technicien, pas mal pour un vieillard, pas mal du tout.
Le vieillard, si vous voyez le vieillard, on voudrait tous être vieux comme
un
vous.
Un beau vieillard, attention.
Un beau vieillard, exactement. Gérald, donc apparemment vous n'êtes pas en état grippal ni quoi que ce soit, alors ça nous fait bien plaisir.
Bon, ben faut pas désespérer, hein.
Non. Dites pas ça. Alors, Gérald, vous avez choisi parce que, bon, c'est vrai que dans quelques jours, il y a un événement, c'est-à-dire, en fait, ce sera la semaine
de la canne blanche,
voilà. Et c'est pour cela, et très intelligemment d'ailleurs, je vous remercie d'y avoir pensé, que vous nous avez proposé un livre, il serait question, d'une jeune femme qui est non-voyante. Alors, je vous laisse le soin de nous le présenter.
En fait, je vais parler du livre « La jeune fille au piano » de la Québécoise Louise Lacourcière. Lacourcière a d'abord été enseignante avant de devenir romancière, biographe, conférencière. Mm-hmm. C'est elle à qui on doit la trilogie « La Saline ».
Oui.
Et aussi, celle aussi connue, sinon plus, la trilogie consacrée à la philanthrope américaine Anne Stillman. L'auteur très populaire que j'avoue n'avoir jamais lu avant de m'attaquer à ce livre-là. Bon, je m'en confesse, Madame Clotilde.
Mais écoutez,
pardonner.
Oh, absolument. Écoutez, mon ami, c'est certain que le nombre de livres que nous n'avons pas lus excède le nombre de livres que nous avons lus, c'est certain.
On doit faire des choix. Donc, ce roman apparu en 2015, il fait à peu près 350 pages. Et pour ceux qui vont l'écouter, mais c'est une dizaine d'heures. Je l'ai choisi au SQLA, le service québécois du livre adapté. Alors oui, vous aviez parlé d'une jeune fille aveugle. En fait, il y en a plusieurs parce que l'héroïne s'appelle Anne Alary. Et en septembre 1894, j'ai bien dit 1894, son père l'amène en train, c'est une première pour elle que le train, l'amène à Montréal, plus précisément à l'Institut Nazareth, qui à ce moment-là loge rue Sainte-Catherine. Et c'est elle qui a demandé à aller à cet institut parce que sa famille la surprotège incroyablement. Donc, elle s'amène en septembre 1894 à l'Institut Nazareth, et là, bien sûr, elle va s'adapter jour après jour à la vie du pensionnat, parce que c'est un pensionnat pour jeunes filles et garçons aussi. Hein.
Oui, oui.
À l'époque, c'est mixte. Donc, elle se fait des amis, elle se fait, je dirais pas des ennemis, mais comme dans toute école, il y a
bien
des
sûr.
Gens avec qui on a des affinités, d'autres ça ne marche pas. Donc, Philomène devient sa première et fidèle amie. Il y en a une autre avec qui elle se chicane souvent. Donc, Elle est aveugle,
oui.
je l'ai dit, mais elle est aveugle depuis l'âge de 3 ans. Donc, elle ne voit rien, contrairement à plusieurs élèves de l'Institut qui, eux, sont, comme l'auteur le dit, demi-voyants ou demi-voyantes, parce qu'on parle surtout de filles. Donc, elle va connaître, bien sûr, la vie du pensionnat, les amitiés féminines et aussi, il faut le dire, les premiers émois amoureux, parce qu'elle a 16 ans. Est-ce que je l'ai dit? Elle a 16 ans quand elle arrive, et elle arrive d'ailleurs le jour même de son 16e anniversaire.
Ah, OK.
Alors, on n'a plus une petite fille ici, là.
Non, c'est ça. Et puis donc, elle arrive heureuse. Hein? Et ça, je vous confirme que vous l'avez dit. Elle a envie.
Ah oui, parce qu'elle voulait vraiment sortir du cocon familial. Mm-hmm. C'est incroyable parce que sa mère lui avait dit un jour, un aveugle dans une famille, c'est une punition du bon Dieu. Ça n'aide pas beaucoup l'autonomie. Alors, évidemment, elle n'a pas oublié cette remarque de sa mère, parce qu'à l'époque, à un moment donné, son père l'amène dans un commerce du village, Saint-Léon-le-Grand, et là, la dame lui demande, mais qu'est-ce que vous avez à parler avec votre aveugle? Oh, c'est incroyable.
Oh là là là.
Ben, nous sommes en 1894. Donc, je reviens au pensionnat, c'est la vie, le jour, le quotidien du pensionnat, avec les exercices de piété, les travaux manuels, la musique, évidemment, parce qu'elle va apprendre le piano et se débrouiller assez bien, et aussi le sport, on a quelques scènes de sport de groupe. Parmi, je dirais qu'il y a des personnages bien typés, d'ailleurs, certains viennent en droite ligne de la trilogie La Saline, comme le médecin, le père, évidemment, Monsieur Napoléon. Il est ramancheur, je ne l'ai pas dit, mais je le dis, il est ramancheur. Pas médecin, mais ramancheur, et un ramancheur assez efficace, semble-t-il, puisque le médecin fait parfois appel à lui. Donc, il y a des personnages bien typés, le père, le médecin. Dans l'Institut, il y a bien sûr les bonnes religieuses, il y a la méchante, ça c'était inévitable.
Ben hein,
c'est la sœur Sainte Judith, mais elle est vraiment méchante. Là.
Ah oui, hein,
on est ravis d'ailleurs devant un tel personnage. C'est absolument délicieux. Il y a également quelques élèves désagréables. Il y en a qui sont très, très dévoués. Qui vont, comme on disait à l'époque, il y avait des marraines. Hein. Si vous arrivez à l'Institut, vous étiez marrainé par quelqu'un. Alors, Anne va être marrainée par Philomène et c'est ainsi qu'elle va devenir. Ils vont devenir de très bonnes copines. Bon. Alors, on la suit. On la suit pendant un an, hein, de septembre à juin 1895. Elle suit, je l'ai dit, le piano. Elle va se débrouiller assez bien. C'est pas la meilleure pianiste de l'école. Mais l'histoire se termine, parce que je peux bien dire la fin, il n'y a pas de punch là-dedans. C'est un roman historique, donc.
Bien sûr.
Elle se termine par un concert au Monument National, qui existait déjà à l'époque. Et, ma foi, elle offre une très bonne prestation. Elle va revenir au village. Et bien sûr, il n'y aura pas d'évolution dans ses amours, parce que en fait, elle a deux hommes dans sa tête. Le frère du médecin du village, Arthur Pelletier, et un étudiant de Nazareth, Mathias Vézina. Donc, mais il n'y a pas de développement. Est-ce qu'il y aura un autre roman? C'est possible. Donc, c'est ça, finalement. Grosso modo, c'est ça. C'est une facture, je dirais, assez classique. Hein.
Oui.
Il n'y a pas de... c'est pas un trailer, bien sûr, c'est pas un roman.
Non.
Juste un roman historique d'abord. Et là, si vous ne connaissez pas la vie à l'Institut, mais vous la connaîtrez très bien une fois le livre terminé.
De
toute évidence, elle s'est bien documentée.
Oui, hein, et puis je pense, permettez-moi d'avoir une pensée pour notre amie Jeannine Vanier.
Oui.
Hein, que vous avez bien connue aussi, puisque vous avez été son biographe à une certaine époque. Et Jeannine, qui est rentrée très, très tôt à l'Institut Nazareth et qui nous en avait parlé d'ailleurs abondamment dans son audio-portrait, elle en conservait un excellent souvenir. Hein. Le mauvais souvenir ensuite qu'elle a conservé, c'est lorsqu'on a décidé, coupure oblige, d'enlever des cours de musique. Enfin bon, tout d'un coup, tout ça a disparu. Alors ça c'était terrible. Déjà qu'on était privé de la vue, mais en plus quand on vous privait de ce pourquoi vous semblez fait dans la vie, quoi. Ça n'a pas été facile pour elle. Mais
vous parlez de Jeannine Vanier. Oui. À la fin du roman, l'auteur remercie un tas de gens, dont les sœurs Théberge, bien connues dans le milieu de la déficience, Huguette et Micheline.
Oui.
Nicole Trudeau, bien connue également, et Jeannine Vanier.
Ah,
et moi, je me suis demandé, est-ce que l'auteur a lu le livre que l'historienne Suzanne Comand a consacré à l'Institut Nazareth et Louis Braille? Sans doute, parce qu'encore une fois, c'est très bien documenté. Rien de ce qu'elle dit sur la vie à Nazareth, rien de ce qu'elle dit sur le handicap visuel, On ne peut pas la prendre en défaut à aucun moment. Tout est vraiment vrai. Enfin,
oui,
tout
c'est
est
ça.
Vraiment vrai, c'est très fort.
Ça. Non, mais ouais, tout est véridique. Voilà, c'est ça. Tout est juste. Et ce qu'on apprend aussi, hein, je pense au témoin d'un doute, mon ami Gérald, mais on pourrait penser que, oh, ben, mon Dieu, des enfants qui sont non-voyants, qui a une certaine, que c'est empreint de tristesse dans les couloirs et tout, mais c'est pas vraiment le cas, non?
Non, d'ailleurs, l'héroïne, Anne Allary, est une jeune fille qui est généralement de très bonne humeur, qui a une aptitude évidente au bonheur, et là, elle-même pensait que ça allait être un peu triste, mais non, pas du tout, au contraire. Il y a des scènes de rigolade, de jeux en commun, donc, et moi qui ai interviewé plusieurs personnes qui étaient allées à l'Institut Nazareth, eh bien, je retrouve ça, effectivement, je retrouve ça dans le roman. Les gens qui ont connu l'Institut ne vont pas apprendre grand-chose, il faut bien le dire. Mais c'est quand même une belle histoire. Mais les gens qui ne connaissent pas du tout le milieu du handicap, là, apprendront beaucoup.
Et vous pensez même que ça pourrait donner des idées à d'autres? peut-être qu'il y a des parents d'enfants qui sont atteints, qui sont malvoyants, etc. Qui pensent peut-être pas à la musique.
Il semble que le roman ait été un succès en 2015. Donc, oui, c'est possible qu'effectivement... Mais je pense que c'est le genre de livre qui peut contribuer aussi à changer
les mentalités.
Les idées reçues, les mentalités, les préjugés. Parce que, et d'ailleurs, il y a des faits, des petites curiosités ici et là. Par exemple, le père, Napoléon, est un original aux yeux de sa fille, et nous sommes en 1894, je le rappelle. Okay. Elle va dire à un moment donné, mon père aide parfois sa femme à faire la cuisine. Bon, ça nous fait sourire maintenant. Et là, elle ajoute, si ça se savait, il serait la risée du village.
Oh mon Dieu, oui.
Ben, nous sommes en 1894. Alors, juste des petites choses comme ça, ça pimente un peu la sauce. Là.
Exactement. Mais quand on y pense, c'est pas si vieux en plus. C'est quoi? C'est avant-hier, ça?
Ben oui, c'est fin du
9e,
début
mais oui, exactement.
Effectivement, mais on se reporte dans un petit village du Québec, évidemment. Là. Et je n'ai pas parlé de l'emprise du clergé, bien sûr, qui est là très fort. Hein. D'ailleurs, il y a des personnages historiques qui traversent le récit. Monseigneur Bruchézy, bien sûr.
Oui.
Il y a Honoré Mercier. Il y a Le Tondal, qui était professeur de musique à Nazareth. Ces personnages-là ont vraiment existé. Tous les autres sont fictifs, bien sûr.
Honoré Mercier, qui, faut-il le dire, n'est pas seulement qu'un pont pour les jeunes.
Oui, on peut dire aux jeunes d'aujourd'hui, oui. Comme Henri Bourassa,
exactement.
On pourrait en parler longuement.
Gérald Delcousineau, c'est toujours, on le sait, un grand, grand plaisir de partager avec vous le plaisir de lire. Alors, merci beaucoup d'avoir été là une fois de plus pour nous présenter La jeune fille au piano de Louise Lacourcière.
Voilà. Au plaisir, Clotilde.
On se retrouve le mois prochain. Au revoir, Gérald.
Oui, au revoir.
C'est une écriture qui nous prend à la gorge. Moi, c'est littéralement ce que cela m'a fait, ce livre de Martine Delvaux qui s'appelle « Blanc dehors ». J'avais très, très hâte de pouvoir lui parler de ce roman d'un deuil. Martine Delvaux, bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous d'abord? Parce que malheureusement, vous n'avez pas pu vous déplacer jusqu'à nous. J'espère que ce n'est pas trop grave.
Non, j'ai une tendinite dans un bras, ce qui m'empêche de mettre les bottes, le manteau, de m'habiller normalement, donc voilà, je suis restée chez moi.
Bon, est-ce que c'est la tendinite de l'écriture?
Ah, mais c'est possible, hein, avec l'âge. Oui, plus on accumule les pages, plus ça fait mal.
Mais d'ailleurs, on en reparlera, parce qu'à un moment donné, dans votre livre, il est question de la douleur qui vous scie le dos et les bras.
Hein? Oui,
alors, je me suis dit, mon Dieu, est-ce qu'elle est en train de nous en écrire un autre et ça recommence?
Et c'est possible, mais je pense que j'y échapperai pas, oui.
Martine Delvaux, je voudrais rappeler que vous êtes, bon, auteur, bien sûr, mais essayiste aussi. Vous êtes aussi professeur à l'UQAM en littérature, j'imagine.
Oui, en études des femmes. Oui.
D'accord, c'est ça. Et je me souviens qu'entre autres, on vous avait évoqué avec mon amie Pascale Navarro quand elle était venue ici. Voilà, en tout cas, écoutez. Alors Martine, j'ai lu votre livre avec beaucoup d'émotion. Blanc dehors, ce serait difficile de ne pas en avoir parce que je dirais, mais je voudrais pas faire peur à nos auditeurs en précisant que c'est un livre immensément triste. Entendons-nous bien, on n'est pas avec le mouchoir à la main du début à la fin.
Non, je crois pas.
Non, absolument pas. Mais quand il s'agit de faire le deuil, et comme vous le dites d'ailleurs, bon, je vais tout de suite utiliser vos mots en page 123, comment faire le deuil non pas de ce qui nous a été enlevé ou de ce qu'on a été forcé de quitter, mais de ce qui n'a jamais été là.
Oui, c'est ça. Exactement. Je pense que vous avez raison. Je pense que c'est un livre, pour moi, c'est un peu le livre du chagrin.
Oui.
Mais c'est pas un chagrin qui est spectaculaire.
Non, pas du tout.
C'est un chagrin qui est tout en, je dirais, en dentelle.
Oui.
Et l'écriture a été travaillée dans la perspective de cette transmission d'un chagrin qui est blanc, en fait, qui est sans nom, sans image, et qui est un peu fantomatique.
Et la dentelle, je pense que c'est une belle image aussi, parce que dans la dentelle, il y a plein de trous.
Oui, exactement.
Et dans cette histoire-là, il y en a également des trous. Alors, parlons-en un petit peu de cette histoire-là. Je vous avouerai que pour préparer l'entrevue, j'ai parcouru la presse pas mal, ce qu'on avait dit au fil de vos rencontres lorsque le livre est sorti. Mm-hmm. Et finalement, il y a des fois où je me suis dit, bon, ben voilà, c'est un roman. Puis la fois d'après, c'est un récit. C'est bon, mais là, écoutez, vous êtes née en 68, la jeune femme dont il est question aussi. Alors, c'est votre histoire?
Ben, en fait, oui, c'est mon histoire, mais qui passe dans le tamis de la fiction.
Oui.
Et on m'a souvent demandé pourquoi alors le mot, le genre roman sur la page couverture. Mm-hmm. Et pour moi, ça va de soi, c'est-à-dire que je n'ai même pas interrogé cette catégorie-là. Je trouve que c'est bien que les lecteurs n'oublient pas qu'il y a une distance.
Oui.
Parce que dès qu'on écrit, on peut bien parler de soi. Enfin, parfois, on dit tous les écrivains parlent d'eux-mêmes.
Oui.
Donc, je le fais aussi, je le fais délibérément. Je pourrais dire aussi, il n'y a rien de faux dans mon roman. Tout est vrai.
Oui.
Dans celui-là,
oui.
comme dans
oui.
tous les autres
oui.
que j'ai écrits.
Oui.
Donc, c'est tout à fait moi. Et en même temps, mais c'est moi écrite. Mm. Et la moi écrite n'est pas la même que celle qui vit.
Donc, non,
celle qui a
comprends.
Mal au bras aujourd'hui, c'est pas la même que celle qui est dans les papiers.
Non, c'est clair. Mais c'est quand même une écriture qui a été douloureuse.
Ah, absolument. Douloureuse, toute écriture est un peu douloureuse parce qu'il faut
c'est
trouver
vrai?
Les bons mots. Ouais, mais pas au sens cliché
non.
où on dit, bon,
ça
fait souffrir d'écrire, mais c'est difficile d'écrire.
Oui.
Parce qu'en tout cas, pour moi, il s'agit de trouver la voix, de trouver la justesse de cette musique. Que j'entends dans mes oreilles.
Et,
donc, c'est ça qui est difficile.
Et justement, parlons-en de cette musique. Permettez que j'en fasse part, que je la partage juste quelques lignes. Mm-hmm. Nous sommes en page 98. Vous écrivez, et quand je dis que c'est un livre triste, c'est de cela dont je parlais, c'est de cette écriture qui transporte tellement de chagrin. « Ma vie est un polar sans meurtre, sans détective et sans victime. » Un film mal casté, mal monté, un récit sans rien et sans fin. Ce n'est pas un récit d'enfance, c'est l'histoire de ceux qui manquent.
Ouais.
Ouf. Ouf, non, mais moi je vous dis à chaque fois, c'est ouf, ça fait mal. Donc celui qui vous manque, c'est le père, l'absent, dont vous ne savez rien, ou presque.
Oui, en fait ce qui manque, c'est l'histoire de cette personne.
C'est ça.
C'est peut-être moins la personne
en tant que telle.
En os, parce que quand on n'a pas eu, je ne pense pas que ça nous manque comme
c'est
ça.
C'est ça.
Enfin, ce qui manque, c'est
qui
aurait pu être raconté.
Oui. Et à ce niveau-là, la maman n'en a jamais parlé, ou que très peu, hein, en filigrane, tout d'un coup, il y a quelque chose qui sort, comme l'histoire de ce grand-père. Donc, le père du père absent qui aurait assassiné sa femme, qui aurait fait de la prison. Et tout d'un coup, d'ailleurs, c'est la seule fois où vous le dites, hein, je ne sais plus en quel terme, où tout d'un coup, ça incarne un peu ce père absent, cette histoire-là.
Oui, et en fait, c'est tout le roman tend ou veut se rendre à cette histoire-là pour mesurer un peu le grotesque de la chose, que le seul élément qui puisse mettre de la chair sur ce fantôme, c'est une histoire de meurtre.
Oui.
Donc, ça nous renvoie tout le temps en spirale à cette absence.
Oui.
Comme une absence qui se creuse.
Oui.
Mais c'est bien l'histoire qui manque. Et on pourrait dire, ben, c'est pour ça que je suis devenue écrivaine, peut-être. C'est-à-dire que j'ai toujours essayé de mettre des mots là où il n'y en avait pas.
Oui.
Tout mon travail, c'est ça.
Oui.
À la fois l'universitaire autant que la romancière.
D'ailleurs, à un moment donné, c'est exactement ce que vous dites. Hein. Vous le dites qu'il y a à la fois trop et pas assez de mots, quoi, dans cette histoire-là.
Ouais.
Et puis, bon, alors pour parler un petit peu de la structure aux gens qui nous écoutent, à tous nos auditeurs, parce que vous savez que maintenant votre livre a été enregistré, c'est pour ça voilà, il a été enregistré en audio adapté pour que les personnes malvoyantes ou non voyantes ou alors qui ont des problèmes éventuellement moteurs puissent écouter ce livre-là.
Ouais.
Et donc pour leur dire que le livre oscille en permanence entre la mère toute jeune qu'on suit dans sa famille bourgeoise. Par contre, évidemment, on n'apprend rien sur ce qui a pu se passer avec cet homme-là, mais on la suit entre autres lorsqu'elle accouche, quoique il y a une ellipse, parce que de toute façon, même elle va vivre cette ellipse-là puisqu'elle va être endormie. Je me suis dit, tiens, encore un blanc.
Oui, tout à fait. Oui.
Un blanc de plus. Et puis entre deux, vous revenez alors sur les états d'âme de cette jeune fille, quoi. En gros, on balance toujours un petit peu les deux. Et non seulement je trouve ça triste, mais parfois je trouve ça évidemment très, très amer. Et là, je voudrais parler du chapitre sur la bâtarde. D'ailleurs, c'est comme ça que le chapitre commence. Hein. Mm-hmm. En page 77, bâtarde, le mot qu'il ne faut pas prononcer, le mot qui fait tomber le silence.
Ouais.
C'est le mot que la petite voisine d'en face me jette au visage un jour comme un ballon lancé trop fort pour que je puisse l'attraper. Maudit bâtard, un mot vulgaire, un mot juron, un mot servi à toutes les sauces et qui, chaque fois que je l'entends, m'empêche de respirer.
Ouais.
Et je trouve ça, alors, juste, si vous me le permettez, ce qui vient derrière. On est bâtard de la même façon qu'on est un enfant de chienne ou fils de pute, parce qu'il n'y a pas que l'enfant qui est bâtard, la mère l'est aussi. C'est une mère accidentelle, une mère ratée, une mère à moitié.
Ouais, c'est ça. C'est le livre du chagrin, c'est le livre
de la
honte.
Oui, c'est le livre de la honte.
Ouais. J'ai fait beaucoup de rencontres avec des étudiants du cégep autour de ce roman et je leur dis toujours, pour vous, votre génération, des jeunes qui ont 17, 18, 20 ans aujourd'hui, l'idée de bâtardise est même pas... Enfin, n'existe pas, parce qu'aujourd'hui, mère célibataire, femme seule, enfin, famille monoparentale, tout ça, ça a une place dans la société, parce que ça a une place dans le discours, et c'est pas honni. Mais en 68, et encore, on est à la fin de cette période-là, qui était très noire au Québec, mais il reste que dans des familles catholiques plutôt aisées, où c'était mal vu que de faire un enfant sans être marié, ben la bâtardise restait quelque chose de palpable.
Absolument.
Et on le porte. Et au fond, c'est ça que je voulais travailler, c'est-à-dire que non seulement ma bâtardise à moi, mais celle de tous ces gens qui sont mis au banc, parce que la bâtardise, c'est tu peux pas exister comme les autres, t'es toujours sale, et d'où le lien avec tous ces orphelins que j'ai essayé de débusquer.
Ça m'a l'affaire est-ce que c'est en Irlande?
C'est effrayant.
Alors, j'aimerais que vous nous en reparliez pendant que j'essaie de retrouver la page là-dessus. Mais c'était page 108 en Irlande. Alors, regardez, là, le mieux, c'est encore que je vous cite, puisque j'ai le livre sous les yeux. En 2014, à Galway, en Irlande, une fosse commune est découverte. Les corps de 800 bébés. En 2014, donc, ça c'est au moment où on les a découverts,
mais
les corps de 800 bébés ont été enterrés entre 1925 et 1961 dans une fosse septique près d'une maison pour mères célibataires. À cette époque, écrivez-vous, on enfermait les prostituées, les orphelines, les handicapées mentales, les filles qui avaient été violées, celles qui étaient considérées légères ou trop jolies, dans les Magdalene Laundries, parce qu'elles étaient forcées de travailler comme blanchisseuses, et on les appelait Magdalene, du nom de Marie-Madeleine.
Oui, exact. Et cette idée de la blanchisserie, quand même, il faut le faire.
C'est fou, c'est incroyable.
Oui. Et donc, c'est là la honte, c'est-à-dire qu'elles étaient esclaves, hein, parce qu'évidemment, elles n'étaient pas payées. Donc, elles devaient laver leur faute.
C'est terrible.
Ou bien qu'elles avaient commises, ou bien qu'elles allaient peut-être commettre, parce qu'on enfermait aussi celles qui étaient susceptibles de faire un enfant hors mariage. Et au Québec, il n'y a pas eu des blanchisseries comme ça, mais il y a quand même eu beaucoup de femmes qui ont été forcées d'accoucher dans des maisons comme à la Miséricorde. Et elles ont dû payer, c'est-à-dire que pour être logées, elles accouchaient et après elles devaient rester travailler pour payer leur séjour. Et parfois on les forçait à mettre en adoption un enfant. C'était une sorte de paiement.
Oui.
Donc, il y a plein d'histoires. Il y a une histoire horrible entourant
Absolument.
Le traitement des mères et des bébés nés hors mariage ici et ailleurs. Là, je veux dire, c'était un peu partout.
Oui, bien
Donc,
sûr.
C'est ça qui m'a beaucoup agité.
Oui.
Ça permet de faire de créer une sorte de communauté d'enfants oni. Il y a quelque chose d'une sortie de la solitude quand on se dit, bon, mon Dieu, j'étais pas la seule.
Oui.
Il y en avait tellement à qui.
Il y en avait tellement.
Et à qui le pire est arrivé, parce que moi,
mais
j'ai
oui.
quand même pas été. J'ai pas vécu le versant glauque, mais
non.
vraiment affreux de ces histoires-là.
Non, ou par exemple, des enfants des Premières Nations hein, qu'on a enlevés. Et dont vous parlez, d'ailleurs, vous les évoquez aussi dans votre livre Blanc dehors. Et encore une fois, là, je pensais aux blanchisseuses. Encore une fois, le blanc. La honte d'avoir la peau blanche, à un moment donné, vous le dites aussi.
Oui, absolument.
Et c'est vraiment... Il y a une phrase que j'ai notée, j'ai noté à côté, ça, c'est une phrase terrible, elle est page 132, je suis en train de la retrouver ici. Voilà, donc j'ai eu honte d'être blanc, justement, pâle, enraciné dans cette tranche-là du monde. Honte de ne pas avoir souffert d'une peine palpable, visible, mesurable. Honte de vivre un drame si privé que c'était un drame de privilégié. Ça, c'est pire que tout. C'est-à-dire, non seulement vous le vivez, mais en plus, vous vous culpabilisez de pouvoir vivre un drame de privilégié. Enfin, c'est...
Parce que c'est jamais assez, en fait. Je pense que quand on nous colle sur la peau cette étiquette, il faudrait presque souffrir à la hauteur de l'étiquette aussi.
Ouais.
Et voilà. Donc j'ai essayé. C'est comme si bon, tout ce qui m'a permis d'écrire ce roman, c'est tout ce qui tournait autour du blanc. Hein.
Bien sûr.
C'est un travail d'enquête autour de tous ces blancs qui m'habitaient. Mais pour essayer de comprendre ce que ça voulait dire vraiment.
Oui.
D'avoir vécu sous le sceau de la bâtardise, en fait.
Et il y en a beaucoup de blancs, encore sûrement maintenant, ça c'est peut-être vous qui allez nous le dire, mais bon, à un moment donné, vous vous dites, mais est-ce que c'était vraiment un enfant de l'amour ou est-ce que c'était un enfant du viol?
Oui, c'est ça. Oui.
Qui a décidé à un moment donné qu'elle allait mettre la petite fille à l'orphelinat ou finalement elle est allée la rechercher au bout de quelques jours?
Ouais.
Mais je trouve que la pire des questions, c'est, et si vous aviez été un fils? Si elle avait appris?
Oui. Tout à fait.
Qu'est-ce que vous avez comme réponse, là? Là, comme ça, tout de suite, aujourd'hui?
Mais je pense que ma vie aurait été différente. Je pense qu'à l'époque où je suis née, d'être née fille, d'être née garçon, il y avait une différence. Ça jouait. Je ne sais pas ce que ça aurait donné, mais est-ce que ça aurait été une raison pour que le père reste? Peut-être. Est-ce que les grands-parents auraient moins hésité? On ne sait pas. Hein? On ne sait pas. Mais je pense qu'à cette époque-là, et je ne suis pas allée très loin dans cette hypothèse-là. J'ai comme même pas voulu y aller parce que c'est très douloureux de penser à ce qui aurait pu arriver si j'avais été d'un autre sexe, justement.
Oui.
Mais je pense quand même qu'en 68, ça jouait encore, même le Québec est en train de changer et que plus on avance dans le temps, moins cette question du genre sexué compte. En tout cas, elle compte toujours aujourd'hui, bien évidemment, mais disons pas de la même façon que cette époque-là.
Martine Delvaux, Blanc dehors, d'ailleurs je ne lirai pas la phrase, mais ce sont les deux derniers mots du bouquin, et ça m'a beaucoup touchée aussi. Blanc comme ce matin, tiens d'ailleurs, quand je me suis levée, je me suis dit, remarquez, l'émission va passer dans 2 semaines, ce sera peut-être plus blanc à ce moment-là, mais au moment où nous l'avons enregistré, c'était tout blanc.
Oui.
Martine Delvaux, Blanc dehors, un livre que je ne saurais que trop recommander, encore une fois, à nos auditrices, à nos auditeurs. Bonne chance avec la tendinite.
Merci pour l'entrevue.
Je vous en prie, Martine. Bonne fin de journée, au revoir.
Au revoir.
Des livres pleins les oreilles, la suite. Oui, deuxième partie de cette émission des livres pleins les oreilles. Si vous êtes des habitués, vous le savez, j'ai toujours maintenant cette habitude de vous lire un extrait du livre dont il a été question durant la première partie. Et ce livre-là, c'est « Blanc dehors » de Martine Delvaux, avec qui je me suis entretenue une quinzaine de minutes un petit peu plus tôt. Eh bien aujourd'hui, je ne sais pas si pour vous c'est une bonne nouvelle, mais on a un petit peu plus de temps que prévu. Alors, je vais me faire un plaisir de vous lire un large extrait de ce livre Blanc dehors. Nous sommes rendus au chapitre 36 pour vous rappeler très brièvement l'histoire qui n'en est pas une, comme le dit Martine Delvaux. C'est cette femme qui n'a pas connu son père et ce n'est pas tant le fait que son père soit absent qui lui manque beaucoup, c'est le fait qu'elle ne connaisse pas son histoire à lui. Alors, elle essaie, durant sa vie à elle, sa vie d'écrivaine et sa vie de fille, de combler les trous, de combler les blancs qui sont manquants, d'où le titre « Blanc dehors ». Alors voilà, donc le début du chapitre 36. Je n'écris pas un livre sur ma mère amnésique, ni sur mon père disparu, ni sur leur histoire d'amour inconnue. J'écris pour remplir des trous, mettre des mots à la place des blancs. Si ce père était mort au lieu d'avoir fui, si ma mère m'avait vraiment abandonnée, j'aurais l'impression d'avoir une histoire à raconter au lieu de ce récit auquel je suis incapable d'accorder une légitimité, parce qu'il est invisible. Rien ne s'est vraiment produit, ma mère est revenue. Ce père est parti et moi, je suis encore vivante aujourd'hui. Peut-être qu'on passe toute notre vie à faire des deuils, et peut-être que c'est ce que j'ai fait moi aussi. Tous les deuils, mais pas celui-ci. Pas le deuil de ce que je ne sais pas. C'est la seule disparition que je n'accepte pas. Je refuse d'être cette fille-là, une fille sans histoire. Si ce père était mort, il resterait quelque chose de lui. S'il était mort même avant ma naissance, entre le moment où ils m'ont conçu et celui où je suis née, c'est donc qu'il aurait été vivant. On m'aurait parlé de sa mort et peut-être que pour adoucir les choses, on m'aurait dit des choses sur lui. Même s'il s'était enlevé la vie, j'aurais eu droit à des bouts d'informations à partir desquels me faire une idée de lui, lui bricoler un visage. Mort, il aurait été inoffensif. C'est vivant qu'il représentait un danger, vivant et disparu et menaçant, parce qu'il y avait toujours un risque qu'il revienne, qu'il me réclame ou me rejette à nouveau et qu'il fasse la même chose avec ma mère. Il ne l'a jamais fait. Il est resté disparu et sa disparition a installé une attente hors du temps, une attente sans limite parce qu'il était lui-même cette chose irréelle, parce que non représentée. S'il était mort, j'aurais pu remplir les blancs avec des objets et des histoires qu'on m'aurait racontées. J'aurais pu pleurer sans pouvoir m'arrêter et alors la tristesse aurait eu un sens. On s'explique la douleur d'un enfant dont le père est mort. On la comprend. La mort dit quelque chose. Elle annule le mutisme. Elle donne un corps à la souffrance. Mon père est dans ce corps. Il est un phasme, une enveloppe vide et translucide à laquelle... à travers laquelle je peux passer les doigts. Il n'y a pas d'image et il est l'absent, absent. Comment faire le deuil, non pas de ce qui nous a été enlevé ou de ce qu'on a été forcé de quitter, mais de ce qui n'a jamais été là. S'il était mort, je pourrais lui faire un linceul et ce livre serait peut-être un tombeau de mots. Chaque petit savoir est une fractale. Chaque morceau donne lieu à des suppositions, à l'image de ces mangroves tropicales où des lacis de racines courent dans tous les sens sous les arbres. Souvent, je ressens une envie folle de faire violence à ce texte, couper, vider, tordre les phrases pour les faire rentrer dans le rang, forcer l'histoire, corseter le récit, faire à ces pages ce que je ne peux pas faire avec ma vie. Je rage de ne pas pouvoir tout attraper en une seule image une fois pour toutes. Mais mon cœur se débat, il s'emballe. Je n'arrive pas à stopper la course. Mon cœur ne se repose pas. Il y a tant de blancs et toute ma vie j'ai hésité. Je me suis demandé tant de fois s'il ne fallait pas forcer des entrevues, retrouver des témoins, retracer les adresses et les numéros de téléphone, interroger des gens, crayon à la main, fouiller la mémoire, exiger qu'on me raconte l'histoire, insister pour qu'on me dise la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, mais même sous la menace. Je n'y arriverai pas. Reste un montage de son, un remix. Je mets les écouteurs et j'écoute le battement d'un cœur irrégulier. C'est une histoire qui n'a ni début ni fin. Le dernier mot n'existe pas, ce mot qui, une fois écrit, aurait pour effet de me libérer, parce que je n'arriverai jamais au bout. Une fois le dernier mot posé, il faudra encore recommencer, et cette fois, comme à chaque fois, parce que c'est un geste impossible, les mots ne peuvent pas saisir le rien, et le rien à saisir est lui aussi interdit. Il ne faut pas le penser, et encore moins l'écrire, ne pas laisser d'empreinte, n'être coupable de rien. On dit que les enfants doivent apprendre à gérer leur peine. C'est ce qu'on dit quand on se place de haut et de loin, quand on veut tout sauf partager leurs larmes, quand on veut qu'ils apprennent à se débrouiller et qu'en retour, les enfants sont amenés à comprendre trop tôt combien ils seront seuls dans la vie. Pas solitaires, tout simplement seuls. Je vois ma mère dans son uniforme de collégienne, elle a l'air sage dans ses vêtements bleus et blancs. Je ne sais rien de cette période de sa vie, sinon ce que je reconstruis, c'est-à-dire que j'invente à l'aide d'images. Ma mère, au milieu de compagnes de classe, avec au bout de la table une religieuse à cornette. Ma mère, au téléphone, enfoncée dans un divan avec entre les doigts une cigarette. Ma mère, qui joue aux cartes en buvant une bouteille de Coca-Cola. Ma mère, qui pose au fond du jardin. Ma mère entourée de copines aux cheveux mis en plis comme des dames, pendant qu'elle porte une queue de cheval montée haut derrière la tête et attachée avec un nœud. Ma mère, rieuse, aux cheveux mi-longs, dénoués, un air de Natalie Wood. Ma mère aux cheveux courts, une frange épaisse sur le front comme Jean Seberg. Ma mère, fine et mince, derrière de larges rayures dans son uniforme de caissière à l'Expo 67. Ma mère debout dans un appartement aux murs blancs, quenouilles séchées au sol, et suspendu au plafond, un filet de pêche serti de bibelots, photos, étoiles de mer. Ma mère dans une longue robe rose pâle le jour de la remise des diplômes, une fleur dans la main et dans ses yeux, quelque chose qui ressemble à du chagrin. Je ne saurais jamais quelle jeune fille elle était, à quoi elle rêvait, quelle pensée occupait son esprit pendant qu'elle aurait dû étudier. Je ne sais pas vers quoi elle se tournait pour se distraire, à quoi elle réfléchissait. J'ai toujours cru que c'était moi qui avais empêché la jeune femme de devenir qui elle était. D'autres fois, je me dis que c'est le bébé qui lui a tout permis. Mais c'est une lecture en palindrome qui revient toujours au même. À l'endroit ou à l'envers, je suis ramenée à ce que je ne sais pas. Je tourne l'histoire dans tous les sens. Je transpose, je déduis, j'interprète, je décode, je réécris, je traduis, j'invente une doublure au secret. Je ne saurai peut-être jamais si ce que je sais est vrai, mais peut-être qu'un jour, il y aura une apparition, une révélation, quelqu'un qui viendra lever le voile du doute. Ainsi, je serai forcée de laisser aller la seule chose que je sais, le fait que je ne sais rien.
Thank you.
Voilà, c'était un extrait du livre de Martine Delvaux, Blanc dehors, que je vous ai lu sur du Gabriel Fauré, un air, une pièce qui s'appelait « Après un rêve ». On s'en va vers quoi ? Ah oui, je sais, il y a du nouveau à B1Q. Oui, il y a du nouveau à B1Q et cette semaine, dans le cadre de l'émission Les Paractualités, j'ai reçu Chloé Barry qui est venue pour nous en parler et j'ai pensé que vous seriez très intéressés d'apprendre, d'entendre ou de réécouter ce qu'elle avait à nous dire. Alors, elle est responsable de l'accueil, des services d'accueil de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Elle va venir nous parler de quelques nouveautés, ma foi, fort intéressantes. Chloé Barry, bonjour.
Bonjour.
Ravie de vous avoir ce matin en notre compagnie. Merci de vous être déplacée également.
Plaisir.
Alors, Chloé, on parle, s'il vous plaît, d'aménagement, on parle de guidance, on parle... Quelles sont les nouveautés?
Alors, la grande bibliothèque, le rez-de-chaussée de la grande bibliothèque a subi un rafraîchissement au cours des deux, trois dernières années. Et un des éléments cruciaux de ce rafraîchissement du rez-de-chaussée, bon, qui était rendu nécessaire parce qu'après 10 ans et à 8000 visiteurs par jour, elle est usée, notre bibliothèque.
Ah oui, hein?
Et un des objectifs qu'on poursuivait, c'était de regrouper enfin, dirais-je, les collections, les services, le personnel et les équipements des services adaptés dans une seule zone du rez-de-chaussée. Parce qu'auparavant, c'était disséminé partout sur l'étage, ce qui, évidemment, est comme la pire chose à faire
pour les
personnes qui ont une déficience visuelle.
Absolument.
Qui devaient se promener un peu partout pour chercher documents, après les équipements, tout ça. Donc là, maintenant, c'est vraiment une zone même de choix, c'est-à-dire que c'est tout de suite en face des ascenseurs principaux. On a là toutes les collections, donc les livres en gros caractères, les livres sonores adaptés, les livres en braille, toutes les nouveautés se retrouvent là. La salle avec les équipements multimédia adaptés, les postes adaptés sont là aussi. Le personnel est juste à côté avec un comptoir de service.
Fantastique.
Et donc là, maintenant, quelqu'un qui entre à la bibliothèque et qui exprime des besoins particuliers peut vraiment avoir tout l'ensemble de l'offre dans une seule zone.
Mm-hmm.
Et pour s'y rendre, on a aussi installé un chemin... en surface, qui permet aux personnes ayant une déficience visuelle et se promenant avec une canne vraiment de pouvoir rentrer dans ce grand espace sans se perdre et sans buter dans le quoi que ce soit.
À quoi ça ressemble, ça, au sol? C'est comme des éléments...
C'est un peu comme dans le métro.
Ah, d'accord, qui sont collés au sol.
Ce sont des lamelles,
tactiles,
qui permettent vraiment de bien se diriger
d'accord.
au bon endroit.
Très bonne idée. Mais ce n'est pas la seule bonne idée, hein, d'ailleurs.
Non.
On va parler du CAEB dans quelques secondes, minutes, mais je voudrais qu'on revienne sur un point parce que je sais que c'est un point crucial. Il y a encore beaucoup de gens, hein, Chloé Barry, qui pensent que ce service du SQLA, donc le service québécois du livre adapté, entre autres du livre audio ou du livre en braille ou du livre à grosses lettres, et n'est fait que pour les personnes qui sont non-voyantes.
Exact.
Et c'est pas vrai.
C'est pas vrai. On ratisse beaucoup plus large que ça. Il y a beaucoup de personnes qu'on n'arrive pas à atteindre parce qu'ils ne passent pas par des centres de réadaptation, parce qu'ils ont une dégénérescence progressive de la vision, par exemple dégénérescence maculaire ou perte partielle de la vision, et qui ignorent, ils continuent à se brûler le peu de vision qui leur reste sur des livres en gros caractères, alors qu'ils pourraient facilement avoir droit au service québécois du livre adapté, donc au livre en version sonore. Il suffit en fait d'avoir une attestation d'un professionnel de la santé. Et à ce moment-là, vous avez accès aux livres sonores. On n'a pas besoin d'attendre de ne plus vraiment du tout être capable de lire une seule lettre pour avoir accès à nos services. L'autre groupe qui ignore qu'ils ont, qui peuvent avoir recours à nos services, ce sont les gens qui sont atteints de dyslexie grave. On pense souvent à ce moment-là plutôt à des adolescents,
des jeunes. On avait fait une émission spéciale d'ailleurs ici là-dessus avec Lucie Robida. Parce qu'on trouve que c'est nécessaire. Quoi,
et nous, on voit effectivement que la demande, il commence à arriver. Là. Ça arrive souvent par les professeurs, mais il suffit d'une attestation d'un orthophoniste ou d'un orthopédagogue pour dire que cet élève-là est incapable de lire de l'écrit imprimé et il aura accès à nos services. À ce moment-là, par ailleurs, il n'y aura pas le lecteur Victor là, pour lire les formats DAISY, mais il peut télécharger une application. Et notre collection s'en vient de plus en plus numérique, donc ça lui permet ça. Et un autre groupe qui l'ignore, force aussi, et là, ça peut même être un abonnement temporaire au SQLA, ça peut être une utilisation temporaire de nos services. Ce sont des gens qui auraient des pertes de motricité graves qui les empêchent de tenir physiquement un document entre les mains.
Donc, c'est
vraiment trois groupes qui ont tout intérêt, en fait, à nous appeler.
Oui, exactement. Ou des gens accidentés qui sont peut-être momentanément, pendant 2, 3, 6 mois, qui ont l'incapacité de pouvoir utiliser leurs mains, leurs bras, bien sûr.
Voilà, exactement. Bon. Donc, je tenais à le rappeler en ce début d'année.
Vous faites bien parce que, d'ailleurs, je le rappellerai précisément moi-même dans le cadre de l'émission des livres plein les oreilles, parce que c'est vrai que même moi, parfois, je commets l'erreur. On s'adresse un petit peu trop aux gens qui ont des problèmes de perception visuelle. Et là, ben non, il n'y a pas que ça.
Voilà.
Alors, c'est important que ça se sache, Chloé.
Oui.
Et puis, je voudrais que vous nous parliez, s'il vous plaît, des services du CAEB, parce que je vous avouerai qu'il y a beaucoup de gens qui nous demandent, qui sont un petit peu, ils comprennent, mais en même temps, c'est un petit peu confus.
C'est un peu confus.
Éclaircissez-nous.
Je vous éclaircis. Le CAEB, c'est le Centre d'accès équitable aux bibliothèques. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est que l'INCA, l'Institut national canadien pour les aveugles, offrait auparavant la collection et le service de prêt à tous les Canadiens avec sa collection qui est majoritairement en anglais. Ils ont arrêté de s'occuper de la portion prêt et abonnement. Et c'est maintenant le CAEB qui s'en charge avec des alliances avec les bibliothèques municipales ailleurs au Canada. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est via les bibliothèques s'abonnent, font un partenariat avec le CAEB et le pont se fait comme ça. Donc, au Québec, il nous fallait absolument une entente avec le CAEB pour s'assurer que tous les Québécois qui désiraient avoir encore accès aux collections de l'INCA, donc avoir des livres en anglais, mais pas que, ils ont aussi des journaux, des magazines, ils ont une collection aussi en français, puissent continuer à avoir accès à cette collection-là. Donc, l'entente a été signée à la fin de l'été. C'est un projet pilote d'un an et ça permet à tous les Québécois de continuer à avoir accès à la collection de l'INCA et aussi à tous les francophones
hors Québec,
d'avoir accès à notre collection en format numérique uniquement, parce que bon, on peut pas envoyer les CD, ça devenait un peu compliqué avec les CD. Mais toute notre collection numérique a été téléversée dans le fond de l'INCA, et donc là le prêt se fait de cette façon-là. Pour les Québécois, c'est en fait un processus finalement transparent, c'est-à-dire qu'auparavant, il fallait qu'un usager qui voulait à la fois la collection de l'INCA et du SQLA devait s'abonner aux deux. Maintenant, en s'abonnant au SQLA, nous, on offre tout de suite de dire « Voulez-vous également vous abonner au CAEB? »
Voilà.
Et à ce moment-là, le même abonnement sert pour les deux services. Ensuite, le service vraiment, disons, le service après-vente, le service à la clientèle est assuré par le CAEB pour cette collection-là et chez nous aussi. Mais au moins, il n'y a qu'un seul point de service au départ qui est chez nous. Et ça vaut la peine parce que c'est quand même 100 000 titres, la collection de l'INCA. Comme je vous disais, majoritairement en anglais, mais il y a quand même aussi des journaux, des revues en français.
Oui.
Et c'est aussi l'accès à Bookshare qui, là, est vraiment qu'en anglais, mais c'est 270 000 titres numériques. Alors, c'est une offre vraiment intéressante.
Sûr.
Et justement, les jeunes souffrant de dyslexie sont très nombreux à aller vers Bookshare, vu que c'est du numérique.
Tout ça est fort satisfaisant, je dois dire, d'apprendre toutes ces bonnes nouvelles, surtout que vous en parlez avec une très belle éloquence, et c'est très agréable de vous entendre, Chloé. Je suis sûre que là, tout le monde a bien compris de quoi il s'agissait.
Et venez nous voir à la Grande Bibliothèque.
Oui, absolument. Et venez nous voir ici, parce qu'on travaille fort aussi.
Oui.
Merci beaucoup. C'était Chloé Barry, du Service québécois du livre adapté pour BANQ. Merci beaucoup, Chloé.
Merci.
C'est plutôt sympa, non, tout ça? J'espère que vous saurez apprécier la chose. Bon, la semaine prochaine, donc c'est l'heure de la bande-annonce, je vais recevoir Daniel Grenier. Daniel Grenier, il est né à Brossard en 1980. Il a publié déjà, malgré tout, On rit à Saint-Henri en 2012, au Cartanier. Et puis, il a publié un premier roman qui s'appelle L'année la plus longue. Et c'est un roman qui a été en nomination pour plein de prix. Et vraiment, tous les critiques se sont plus à dire que cette année la plus longue était vraiment un livre, un incontournable. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit en quatrième de couverture? Parce que maintenant, je vais me lancer dans la lecture de ce bouquin-là. En attendant, je suis comme tout le monde, je vais voir en quatrième de couve. Alors, on nous dit ceci. Un jour, Albert Langlois explique à son fils Thomas en quoi il n'est pas comme les autres. Pour préserver l'équilibre précaire du monde, pour que s'accorde la révolution des planètes et le tic-tac atomique des horloges suisses, Thomas ne peut pas exister tous les ans. Quelque part dans une des salles secrètes de la Royal Society ou dans les souterrains de la Rome des Papes, on a décidé de son sort plusieurs siècles auparavant. Et puis Albert disparaît. Il retourne dans le Nord avec son secret et ses carnets de notes contenant l'ensemble de ses recherches et Thomas se met à grandir comme les autres, entouré des Appalaches et du quotidien des rues chaudes de Chattanooga, au Tennessee. Son corps aurait dû ralentir, mais les événements se sont précipités. Alors c'est un roman des territoires éternels et des destinées fragiles, des tribus déportées et des guerres civiles, légende d'une autre époque qui cherche à conquérir la nôtre et à la transcender. L'année la plus longue, se nourrit autant de la magie du Benjamin Button de Fitzgerald que des fabulations historiques de Féron. Daniel Grenier signe avec ce premier roman une grande épopée américaine traversant trois siècles, une histoire inoubliable de vie trop courte et de vie sans fin. Voyez-vous, je ne vais pas m'ennuyer cette semaine en lisant cela et on en parle la semaine prochaine. Alors, c'est l'heure des rafales, juste avant de vous quitter. Je vais commencer par Le temps du déluge de Margaret Atwood. D'après ce qu'en dit l'éditeur Robert Laffont, ce livre serait un tour de force qui nous propulse dans un monde où règne le chaos. Un monde dirigé par des animaux créés par l'homme, des lionniaux, par exemple, le mélange de lions et d'agneaux, qui terrorisent la population. Et dans cette population, une secte a vu le jour, les jardiniers de Dieu, avec à leur tête Adam Ier. Pour cette secte religieuse et surtout écologique, une seule certitude, l'heure du déluge des airs n'est qu'une question de temps. Une catastrophe apocalyptique naturelle qui va châtier ces hommes qui vouent un culte à l'argent, qui détruisent et pillent la terre et leur environnement. Vous l'aurez compris, c'est une métaphore de la grande histoire sur fond de science-fiction et de soucis écologiques. Ah, Fabrice Lucchini, quel lecteur, hein, quel conteur. Eh bien, il a signé un bouquin qui s'appelle « Le Comédie française ». Alors évidemment, c'est un livre dans lequel il se raconte, Fabrice Lucchini. Il nous emmène dans son univers littéraire. Alors, il y sera question de Barthes, de Céline, La Fontaine, Nietzsche. Lucchini, hein, qui n'est pas forcément un type facile à suivre dans la vie, ou du moins quand il ne lit ou ne dit les mots des autres. Et c'est un peu vrai de ce bouquin, je vous l'avoue, pour l'avoir lu. C'est un bouquin un petit peu confus, faut le suivre, il faut être à sa hauteur aussi, et puis ben, tant pis pour vous si vous ne l'êtes pas. Et c'est un peu ce que j'ai ressenti en le lisant. Dispersez-vous, ralliez-vous. C'est de Philippe Djian. Philippe Djian, c'était celui qui nous avait donné 37,5 le matin. Vous vous souvenez de ça, bien sûr. Alors, tout commence alors que Myriam est encore adolescente, extrêmement introvertie. Elle vit chez son père, qui l'a élevée seule. Et la mort de leur voisine fait débarquer dans le quartier un homme d'une quarantaine d'années, qui s'appelle Yann, et qui très vite devient son premier amant. Peu après, les voici mariés et Myriam se libère de ses inhibitions de jeune fille. Elle accouche d'une petite Caroline sans éprouver aucun sentiment maternel. Et quand son frère et sa mère réapparaissent dans sa vie pour se disputer l'héritage paternel, eh bien Myriam tranche la question en incendiant la maison de son enfance. Drogue, amant, maîtresse, confusion des sentiments, ce roman, chronique d'une émancipation borderline, raconte une vie hors des codes, entièrement construite à la faveur de rencontres. On croit tout savoir de Myriam, mais peut-être nous a-t-on caché l'essentiel. Alors lisez, dispersez-vous, ralliez-vous, de Philippe Djian. Je t'aime encore, Monologue amoureux de Roxane Bouchard. Oui, oui, la Roxane Bouchard que j'avais accueillie ici à l'émission, avec qui nous avions passé un tellement bon moment. À 20 ans, on rêvait de liberté. Alors pourquoi est-ce qu'on s'est attaché? Pourquoi est-ce qu'on a voulu être la moitié d'un autre, puis choisi de fonder une famille? Et pourquoi reste-t-on alors que les différences se sont accumulées au fil des années, que les enfants nous épuisent et que le quotidien nous lasse? Pourquoi s'entêter à aimer encore quand il serait si facile de partir? Je t'aime encore est un récit qui explore le besoin d'enracinement et la présence dérangeante du doute. C'est un texte touchant et drôle sur le couple et l'amour qui peut durer toujours, pouvait-on lire dans une critique de la presse sortie en mai 2016. Sucre, vérités et conséquences de Catherine Lefebvre, une chroniqueuse qu'on connaît bien ici sur les ondes de Canal M. Alors après le gras et le sel, le sucre est depuis quelques années déjà le sujet tendance par excellence, suscitant l'intérêt gourmand autant que la controverse. On le dit toxique, on l'accuse de créer une dépendance comparable à celle de la cocaïne et d'être l'un des principaux responsables de l'obésité, du diabète, du cancer et des maladies cardiovasculaires. Qu'en est-il vraiment? Qui croire pour démêler le vrai du faux? À quoi s'en tenir pour le consommer avec modération? Sucre, vérités et conséquences de Catherine Lefebvre. Et puis, il y a quelques semaines, nous quittait Guy Corneau, qui est allé rejoindre sa sœur, Joanne, récemment décédée aussi. Malheureusement, le Chicoutimien, qui aurait eu 66 ans le 13 janvier dernier, a été emporté le 5 du même mois, en après-midi, par une maladie auto-immune fulgurante qui s'est attaquée à son cœur et qui a causé son décès en moins de 2 jours. Laissez-moi vous rappeler les titres des livres de Guy Corneau que nous avons en banque via le SQLA ou via le CAEB, si vous habitez ailleurs qu'au Québec. L'amour en guerre, La guérison du cœur, c'est un autre livre de Guy Corneau que nous avons, Le meilleur de soi, Père manquant, fils manqué, qui a été évidemment le livre par lequel tout d'un coup tout le monde l'a adulé, ce psychiatre qui était également comédien. Et puis enfin, Revivre, le cri de cet homme qui, aux prises avec le cancer, découvre en lui la force insoupçonnée de la joie. Il avait vaincu le cancer, il a fallu une maladie auto-immune inattendue pour que Guy Corneau disparaisse à son tour, et ça nous a tous rendus très tristes. Alors voilà, c'était des livres pleins les oreilles avec Gérald Cousineau et Martine Delvaux. Merci Jean-Sébastien Laliberté, c'était Clotilde Seille qui vous dit à la semaine prochaine.